si gira. Silenzio.
Camera.
Motore.
Motore. Partito.
Check. Odissea 14702 prima.
Avanti.
Azione.
Les podcasts de la Cinémathèque.
En juin et juillet 2023, la Cinémathèque française programmait une sélection d'une trentaine de films documentaires qui ont marqué l'histoire du cinéma. À cette occasion, David Farou, maître de conférences en cinéma à l'école Louis Lumière et auteur de nombreuses publications sur les cinémas politiques, venait s'entretenir avec le public à propos de Reprise, d'Hervé Leroux. Discussion avec David Farou, animée par Bernard Benoliel.
Bonjour, bonjour, bienvenue à la Cinémathèque. Voilà, ben là on est entre nous. Hein, c'est bien aussi. Je suis ravi de vous accueillir pour la projection de ce film, Reprise, qui est un film qui nous tient à cœur à la Cinémathèque. Il y a quelques ans, on est quelques-uns à avoir un peu connu Hervé Leroux, le cinéaste qui a disparu en 2017 et qui était un homme délicieux. Voilà, c'est une rétrospective sur le documentaire, un aperçu. Une sélection dit indispensable, il faudra évidemment une suite à ces indispensables-là. Et puis, on s'est dit, voilà, cette rétrospective, cette sélection, on va la scander de trois moments, de trois dialogues, qui, d'une certaine manière, comme les poupées russes, idéalement, sortent les uns des autres. On a commencé avec, on disait, entre guillemets, le père du documentaire, Flaherty, donc Nanouk. On a enchaîné la semaine dernière, donc ça, c'était une discussion avec Pierre Gabaston. On a enchaîné la semaine d'après avec une discussion avec Frédéric Berthet à la suite de Chronique d'un été, ce film manifeste du cinéma vérité ou cinéma direct. Et vous savez que Jean Rouch, l'un des deux réalisateurs, se revendiquait évidemment de Flaherty. Et puis là, on va voir Reprise d'Hervé Leroux, qui part d'une image, et une image qui a été publiée dans les cahiers du cinéma en mai 1981, dans un bref dossier sur le cinéma direct, donc sur, d'une certaine manière, Chronique d'un été, et ce que ce film a engendré comme film, dont celui qui donne naissance à Reprise. Donc, d'une certaine manière, voilà, trois dialogues, trois temps, et pour ce troisième dialogue, j'ai invité David Farou, que vous avez peut-être déjà vu dans ces murs à quelques reprises, et en particulier lorsqu'il y a eu la rétrospective consacrée à Jean-Luc Godard il y a quelques années. C'était du temps de son vivant. Et David, il enseigne à l'École nationale Louis Lumière. Je ne veux pas dire qu'il est spécialiste, mais disons qu'il est dédié à l'étude des cinémas d'avant-garde et de l'avant-garde aussi bien esthétique que politique. Je crois même qu'il avait consacré une partie de sa thèse au groupe Ziga-Vertov. Dans les années 2000, il a co-dirigé un ouvrage important qui s'appelle Jean-Luc Godard Document et qui était lié à l'exposition à Beaubourg. Et puis en 2018, aux Prairies Ordinaires, les éditions du Prairies Ordinaires, il a publié Godard, invention du cinéma politique, et qui se consacre aux années 68 de Jean-Luc Godard. C'est un livre que je ne peux que vous conseiller parce qu'à mon avis, c'est un peu la somme qu'on attendait sur les années dites ingrates du trajet de Jean-Luc Godard. Voilà, très rapidement, je vais lui céder la parole pour qu'il dise évidemment quelques mots du film. L'essentiel étant qu'on se retrouve, même si le film est très long, qu'on se retrouve à la fin pour un moment d'échange. Ce qu'on va faire, j'avais prévu, je m'étais dit plutôt une pause à la fin du film, mais en fait le film lui-même avait prévu sa pause, et ça c'est là, ce qu'on va voir, donc c'est la restauration des films d'ici qui date de 2018, mais dès l'origine, dès la sortie du film au cinéma Saint-André-des-Arts, Hervé Leroux avait prévu une pause au milieu du film, donc au bout d'1h40 de film, il y a un entracte qui apparaîtra sous forme de carton, un entracte de 10 minutes. Je vous propose qu'on le respecte. On prend 10 minutes pour faire ce qu'on a à faire. Et puis, pour celles et ceux, mais là, j'imagine la plupart d'entre vous qui veulent connaître le dénouement, et bien pour celles et ceux qui le veulent, on revient au bout de 10 minutes, on voit la deuxième partie. Et ensuite, avec David, on échangera quelques mots avec vous aussi sur ce film assez étonnant. On n'en dit pas plus pour l'instant. Mais peut-être si, quand même, toi, quelques mots de contexte ou ce que tu voudras pour introduire à la vision de ce film que peut-être certains viennent revoir, mais qui ne l'a jamais vu, peut-être, oui, quand même, une petite partie de la salle, donc très bien.
Je vais essayer d'être très rapide, parce que
On aura tout le temps d'en parler après. Mais d'abord pour vous remercier de votre choix de vous enfermer pour ces plus de 3 heures et peut-être 4, un jour de grand soleil comme aujourd'hui. Et je fais le pari que vous ne le regretterez pas. Pour prévenir des déceptions que je ne voudrais surtout pas susciter, au nombre des grands regrets de mon existence, je n'ai pas rencontré, je n'ai pas connu Hervé Leroux. Je serais donc bien en peine de parler en son nom dans la discussion de tout à l'heure. En revanche, comme c'est un vrai regret, j'ai lu très, très attentivement le livre qu'il a consacré au film un an après sa sortie et retrouvé une petite archive d'époque dont je vous parlerai pendant la discussion. Et à titre de, disons, de bande-annonce, les 3 films que je vous proposerai qu'on discute après le film sont comment ce film s'inscrit et historicise sa propre conjoncture en regard avec celle de 68 qui constitue le matériau de départ, comment ce film est un film d'un grand metteur en scène à la carrière tragiquement contrariée, hein, c'est-à-dire que Hervé Leroux a fait entre 1992-13 et 2001, il a pu faire 4 films, ce qui pour un jeune cinéaste est une productivité assez enviable. Et donc pendant 8 années, il arrive à faire 4 films, 2 films de fiction, 2 films documentaires. Pendant les 16 années qui suivent, il n'arrive à rien financer. Puis au moment où il arrive à financer son dernier film, il meurt à 59 ans. Donc c'est un destin assez tragique et qui en même temps dit quelque chose de cette période peut-être elle-même tragique pour le cinéma, où beaucoup de possibles qui existaient encore dans les années 90 se sont refermés depuis le début de ce siècle. Donc ce sera peut-être, ce sera peut-être l'occasion aussi d'en dire quelques mots. Donc le premier film que je voudrais tirer tout à l'heure, c'est celui de l'historicisation de sa propre conjoncture. Le deuxième, c'est celui de la mise en scène. Et le troisième, c'est d'essayer de voir comment les deux s'articulent, c'est-à-dire comment un positionnement politique et des choix éthiques de mise en scène se rencontrent, se combinent, se tissent, jusqu'à quel point il y a une forme de sensibilité ou de rationalité qui organise la rencontre des deux. Voilà.
Parfait.
Peut-être un tout dernier mot autour du titre lui-même. Il y a 2 choses qui sont inscrites dans le film, donc je vais le dire rapidement parce que vous allez les entendre dans quelques instants. Reprise fait allusion au film de 68, Reprise du travail aux usines Vondère. Donc il désigne le matériau initial. Le projet, c'est de donner une deuxième prise à la et aux protagonistes au pluriel de ce film de 68. Donc un projet éthique de donner la parole une deuxième fois à des gens qui, dans l'espace public, l'ont fort peu. Mais il y a aussi quelque chose, et ça je crois que ce n'est pas inscrit explicitement dans le film, ou très peu, c'est que qui a pu motiver le choix de ce titre, c'est que le film est tourné, presque tout est tourné pendant l'été 95. Et il est monté pendant les mois de novembre-décembre 95 et janvier 96, c'est-à-dire à un moment, novembre-décembre 95, où il y a eu une grève aux dimensions assez considérables qui n'était pas prévisible, évidemment, au moment du tournage. Donc, quelque chose se joue de la conjoncture entre le tournage et le montage du film. Et je crois qu'il inscrit aussi ça, y compris dans ce titre « Reprise ». Voilà.
Reprise de la lutte, peut-être. Merci beaucoup. Et ben, bonne projection, bon entracte, bonne deuxième partie, et à tout à l'heure.
Au départ, c'est une photo dans une revue de cinéma, un photogramme, l'image d'une femme qui crie. Et puis un titre, la reprise du travail aux usines Vondère. Cette femme, reprise du travail, comme on dit, reprise de justice, et ses usines nommées Vondère. Vondère, Vondère-Land, Alice à l'usine, l'usine en Pays des Merveilles. Le film a été tourné par des étudiants de l'IDEC le 10 juin 68. On y voit des ouvrières de Vondère à Saint-Ouen qui apprennent le travail après 3 semaines de grève, et cette femme qui reste là et qui crie. Elle dit qu'elle rentrera pas, qu'elle ne foutra plus les pieds dans cette tôle.
Bah écoutez, merci d'être resté pour un échange. D'abord, la parole de ta parole, d'abord, et puis ensuite un échange avec vous. Peut-être pour, je ne sais pas, pour commencer ou pour commencer à échanger. Bien sûr, on pourra ou pas revenir sur ce qui frappe d'emblée ou ce qui frappe tout du long, c'est-à-dire la description des conditions de travail en France, dans certaines usines, à la fin des années 60. C'est quand même, comme dit l'autre, c'est quand même l'horreur. Bien que, quand on écoute certaines ouvrières, c'est aussi les plus belles années de leur vie. Voilà, on pourrait, ou on ne parlera peut-être pas de Bernard Tapie, hein, on fera comme la dame qui lui a tapé dessus avec un parapluie, elle dit « je prononce jamais le nom », donc on verra si on en parle, mais peut-être ce qui nous avait frappé à l'époque quand le film est sorti et ce qui continue à frapper, parce que c'est son cœur, son réacteur et son élément moteur, c'est peut-être la manière dont Hervé Leroux s'empare du document originel, c'est-à-dire le film Vondère de 1968, la reprise du travail aux usines Vondère en 68, et comment il va, avec les moyens du cinéma, déployer littéralement ce document, l'analyser, le creuser, le faire parler, obtenir en quelque sorte les informations dont il a besoin pour que le film, son film, puisse exister et se dérouler. Ça, ce travail, c'est quasiment ce qu'on pourrait appeler une étude visuelle. Littéralement, il prend l'archive comme matière à ses propres images ou à l'absence d'images, puisque lui, ensuite, va aller filmer surtout de la parole. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce parti pris ou de cette manière d'engager le film ?
Alors, c'est une extension de la notion d'étude visuelle proposée par Nicole Brenez, là, que tu proposes, parce que ça va quand même beaucoup plus loin que l'étude visuelle, même s'il y a plein de moments des ralentis qui ont, du propre aveu de Hervé Leroux, une fonction illustrative pendant les entretiens. Il y a plein de moments où on sent ce film disséqué et en même temps, on ne le voit jamais en entier. On n'en voit pas l'intégralité. Donc on est renvoyé.
Il dure 9 minutes, c'est ça ? Ouais. Hein, en totalité.
Sur 3h11, 3h12, il aurait pu se permettre les 9 minutes pour, même en morceaux différents, nous montrer l'intégralité du film. Alors, ce qu'on s'est dit, mais ce qu'on y perd à ne pas voir l'intégralité, c'est que le tour de force du film de 68, c'est que c'est un plan-séquence. C'est-à-dire que toute cette scène... le film de reprise du travail aux usines Vondère, il est indiqué aussi qu'il y a des variantes, hein, qu'il y a une version où il y a un passage coupé, enfin bon. Mais la version qu'on peut voir en ligne sur YouTube ou autre est composée de deux plans, dont un plan séquence. Il y a un plan de situation au début qui nous montre cet emplacement de la rue des Rosiers à Saint-Ouen. Et puis ensuite, on est en caméra à l'épaule à suivre cette conversation dont vous avez vu de nombreuses bribes, tout ça dans une continuité de plan-séquence. Et effectivement, c'est ce qui explique que Hervé Leroux l'ait découvert dans un photogramme reproduit dans les cahiers du cinéma, c'est qu'à un moment donné, c'était aussi un étendard du cinéma direct, que le cinéma direct permette ça, permette ce plan-séquence. Alors, qu'est-ce qu'il avait de particulier finalement, ce plan-séquence ? C'est que... en une unité de temps, de lieu, d'action, se retrouvaient réunis à s'affronter verbalement les personnages typiques de cette journée du 10 juin 1968 à travers toute la France, c'est-à-dire l'ouvrière révoltée qui ne veut pas reprendre le travail, le syndicaliste CGT qui argumente qu'il y a une victoire, le permanent du PC qui vient à l'appui, le lycéen maoïste qui vient donner raison à l'ouvrière révoltée et alimenter la contradiction avec la CGT et le PC. Et au-delà des positionnements très discrets d'Hervé Leroux ou des différents protagonistes, Évidemment que les positions en ce 10 juin 68, dans la pratique de la reprise ou pas du travail, sont totalement tributaires de leur analyse du mouvement qui les a occupés pendant le mois précédent. C'est-à-dire que selon qu'ils considèrent que ce n'est qu'un début, etc., il y a lieu d'essayer de prolonger le mouvement le plus loin possible. L'analyse du PC et de la CGT, notamment à partir du moment de la dissolution de l'Assemblée par De Gaulle le 30 mai, c'est qu'il y a une menace d'intervention militaire et l'armée est au port de Paris. Ça, en fait, maintenant, c'est documenté. On sait que ce n'était pas une vue de l'esprit. Et avec les entrées que le PCF avait dans l'armée, ils avaient matière à être inquiets de... Bah, que ça puisse dégénérer en un bain de sang. En tout cas, c'est ce qui a animé leur analyse et leur positionnement au moment des événements. Et s'inscrire aussi, pour eux, il s'agissait aussi de s'inscrire dans la perspective d'une poursuite de la lutte sans changement de régime. Hein, d'engranger des forces. Alors que, évidemment, la perspective, avec des variantes, hein, des militants d'extrême gauche, ce qu'on voit ici, il y a une militante de l'OCI, l'Organisation communiste internationaliste, trotskiste-lambertiste, il y a le lycéen maoïste de l'Union des jeunesses communistes marxistes-léninistes, ce n'est pas les mêmes lectures hein, de mai 68, mais c'est quand même, elles ont quand même en commun leur lecture de considérer qu'il y a un potentiel révolutionnaire dans la situation. Et que la CGT et le PCF y jouent un rôle de frein en encourageant la reprise du travail. Voilà, donc les analyses de la situation font pleinement partie de la situation. Et donc dans ce plan séquence de 9 minutes, comme dans une sorte de petit théâtre d'agit-prop, se trouvent réunis les personnages typiques de cette scène qui, sous diverses formes, est en train de se dérouler devant plein d'usines. Le 10 juin 68, c'est en même temps le jour où un camarade lycéen de l'Union des jeunesses communistes marxistes-léninistes de Poulou qu'on voit à l'île d'Oléron avec ses planches à voile, etc. Un de ses camarades avec qui il militait et avec qui il était au lycée se fait tuer devant les usines Renault-Flin par les CRS. Donc, c'est pas qu'un petit théâtre. Il se passe des choses très graves. Le 10 juin est une date marquante du tournant brutal de la reprise du travail, même si ça s'est fait progressivement dans les jours qui ont suivi. Mais donc, à l'égard des débats qui ont beaucoup occupé, notamment les cahiers du cinéma et plein d'autres, hein, dans les années 70 autour du cinéma direct, la question de la valeur du matériau dans le cinéma direct et le plan séquence joue un rôle décisif sur la valorisation ou pas de cette forme de cinéma.
Le plan séquence serait, voilà. Comment dire, contiendrait la vérité.
Le plan séquence serait un moyen de supplémentation d'une véracité, d'une vérité qui est déjà présente dans la mécanique d'enregistrement du cinéma. Mais évidemment, le maintien de la continuité, l'absence de montage y ajoute quelque chose et... Ça a un intérêt quand la valeur du matériau condense, comme ici, des données finalement assez complexes d'une situation. Quoi. Pour essayer de revenir sur ta question de départ, le choix de ce matériau, ça, du point de vue du cinéma direct, du plan séquence, c'est choisir un point, je sais pas comment dire, incandescent de la valorisation du cinéma direct, y compris ce film Reprise du travail aux usines Vendère est parfois valorisé par des gens très critiques à l'égard du cinéma direct et de cette pratique de reportage finalement, parce que ici ce qui vaut c'est la condensation de la situation. Donc c'est un peu un point limite quoi, le matériau qu'il choisit, découvert à partir d'un photogramme et puis à partir d'une question qui d'emblée met en jeu beaucoup plus que ce film-là et ce matériau, c'est pour ça que je pense que ça déborde complètement l'étude visuelle, c'est autour de la question qu'est devenue cette femme qui crie, très très vite, et il s'en rend compte avant même de commencer le tournage, pendant l'enquête qu'il entreprend dès 1991, ce qui se joue, c'est le devenir de la classe ouvrière en France après 68. Et j'ai eu envie de te reprendre dans ce que tu disais en ouverture sur les conditions de travail des ouvriers à la fin des années 60. Il y a un extrait sonore tout de suite après l'entracte qui nous parle des pauses pipi de 5 minutes. On est en 1995 ou 96 au moment de cet extrait sonore. C'est-à-dire que le changement n'est pas radical quand même hein, par rapport à 68. On en est au même type d'humiliation, au même type de, d'horaire militarisé, etc. Donc oui, il y a eu des progrès, mais 68 a beaucoup pesé, et c'est dit dans le film, sur des choses très concrètes qui étaient, dont le début de négociation n'était pas possible avant mai 68, mais encore au moment du film, il reste beaucoup de travail. Un truc que je me suis dit aussi pendant la projection, c'est que l'écart de temps entre le moment du tournage 95 et mai 68 est exactement le même que celui qui nous sépare de ce film. C'est-à-dire le film est à mi-chemin entre 68 et nous, historiquement. Donc il y aurait presque le même travail à faire pour voir où on en est maintenant. Hein, à certains égards, on peut rêver des années 90 quand on voit le film. Ou quand on lit le livre qu'Hervé Leroux a écrit un an après la sortie du film, parce qu'il mentionne un truc, mais vraiment anecdotiquement, hein, c'est qu'au moment de la sortie du film, il est invité à la télévision pour en parler sur l'émission Nulle part ailleurs de Canal+. C'est-à-dire qu'il a sans doute quelque chose comme trois quarts d'heure d'antenne pour un documentaire d'auteur. on rêverait de la chaîne, même de la chaîne cinéma, câblé avec moins d'un pour cent d'audience, où ce soit possible aujourd'hui. Donc voilà, sur cette distance qu'on a par rapport aux années 90, elle me paraît à certains égards presque aussi forte que celle qui les sépare de 68.
Mais lui-même disait qu'il faisait un film, comme lui, il se disait entre la génération de mai 68 et celle de la génération Mitterrand, il disait « je suis d'une génération intermédiaire qui a un travail de passeur à faire ». Et Hervé Leroux rappelait que lorsqu'il avait participé aux grèves contre la loi de Vaquer, il s'était rendu compte que tous les jeunes qui militaient autour de lui ou qui participaient à ce mouvement n'avaient aucune idée d'une mémoire ouvrière. Alors une mémoire ouvrière n'est pas forcément nécessaire pour passer à l'acte ou pour passer à la contestation, mais il s'était dit qu'il y avait de toute évidence comme une chaise à rempailler, là, il y avait quelque chose à faire revenir. Et ce qui se passe là, effectivement, revenir, reprise, et c'est ce qui est très beau dans le film, parce qu'on l'a souvent expliqué, souvent dit, ce qui est vrai, c'est que filmer à l'intérieur d'une usine en France, c'est très compliqué. Filmer une usine en état de marche, c'est encore plus compliqué, et généralement, quand elle est filmée parce qu'elle est occupée. Bon. Mais que là, Hervé Leroux, ce qu'il fait, c'est qu'il tourne autour. Hein, il tourne autour, on n'entre quasiment pas dans les lieux. Visiblement, la friche industrielle ne l'intéresse pas. Ce qu'il veut, lui, c'est retrouver des témoins, des acteurs, et presque par la parole, faire revivre à la fois ce que tu dis, cette fierté ouvrière, cette condition ouvrière, cette classe ouvrière, et puis lui donner littéralement la parole, c'est-à-dire que la parole fasse chair, et ce qui est très très beau, ce qui nous paraît peut-être évident quand on voit le film, ou moins quand on regarde beaucoup la télé, c'est à quel point les témoignages, les paroles sont respectées de manière insécable. C'est-à-dire c'est vraiment des blocs.
Il y a des jump cuts en même temps.
Hein, oui, bien sûr, à l'intérieur, oui. Mais aucune parole ne revient couper une autre. C'est absolument. Une plus une plus une.
Oui. Alors, plusieurs remarques à cet égard. D'abord, moi, j'ai repensé pendant le film à une formule très belle qu'avait le dramaturge avignonnais André Benedetto, faire de l'obstacle un chemin. Et j'ai l'impression que c'est un peu une des caractérisations qu'on pourrait donner de la méthode d'Hervé Leroux. C'est qu'il n'arrête pas de rencontrer des obstacles et à chaque fois, ces obstacles lui dictent son chemin. Un personnage ne veut pas être filmé mais veut bien être enregistré. Il construit toute la séquence en images à partir d'archives et on entend quand même la parole. Donc j'ai l'impression, en fait, c'est formidable ce truc parce que ça fait que rien ne l'arrête. En tout cas, aucun obstacle.
Mais en fait, il est complètement, avec son ton très calme et son humour absolument reconnaissable, il est absolument déterminé. Oui. C'est-à-dire que c'est un obsessionnel,
oui.
Hein, au travail.
Alors, bah, quand il dit, je ne sais plus, il y a 400 et quelques qui portent ce nom, au 308e, j'ai trouvé le bon. Faut se représenter le temps de travail, quoi.
Bien sûr.
Par rapport à cette histoire qu'on ne peut pas tourner dans les usines et encore moins pendant qu'elles fonctionnent, il rapporte dans son livre qu'à un débat qu'il animait autour de reprises, René Vautier, le cinéaste militant, était présent et a rappelé à l'occasion de ce débat que la limitation des autorisations de tournage en usine laissée à la seule décision du patron date de 1947 et a été décidée par Mitterrand. C'est rigolo.
Ça fait bien rire. Non,
non mais c'est rigolo que ça ait été Mitterrand, quoi. Mais donc, ça n'a pas toujours été le cas qu'on ne puisse pas filmer dans les usines. Et 47, Mitterrand, voilà, c'est le moment où la décision est à la discrétion des patrons.
Dans la deuxième moitié du XXe siècle, filmer en usine, c'est soit tu le peux clandestinement, en trichant, en embarquant une caméra, je dirais, secrète ou clandestine, soit tu ne peux pas. Et donc, tu fais le pied de grue devant l'usine.
Oui.
Ce qu'il fait d'une certaine manière. Enfin, l'usine a fermé, mais lui, il retrouve tout le monde, il rassemble tout le monde, comme dans le film où tout le monde est devant l'usine.
Et il y a de nombreux exemples passionnants à cet égard. Hein. Les groupes Medvedkine de Sochaux qui ont reconstitué une chaîne dans la rue où ils habitaient en démontant leurs propres voitures et en les remontant avec un travelling pour nous montrer comment ça marchait dans l'usine et en filmant en plein air. Ça donne un plan étonnant hein, quand même. C'est dans Weekend à Sochaux. Mais j'ai perdu mon fil par rapport à ce que tu disais. Oui, sur la parole. C'est assez passionnant en lisant le bouquin d'Hervé Leroux parce que à plein de moments, il commence par exposer ses partis pris de montage et ensuite, il nous indique des situations dans lesquelles il regarde la télé et il voit que c'est le contraire. Que la télé fait le contraire du parti pris qu'il avait pris sans penser forcément à la télé au départ. C'est-à-dire que il y a une formule très très belle sur, par exemple, sur son choix de voix off. Il y a plusieurs pages où il dit toutes ses difficultés à trouver le ton juste pour et à ne pas se dérober. En même temps, la nécessité pour lui de ne pas se dérober, d'être l'émetteur de cette voix off parce que c'est ça son obsession. Sa démarche, son film, et que ce serait absurde d'aller demander à un comédien de la dire, mais que lui, il a tendance à devenir monocorde quand il parle, donc il est obligé de faire plein de prises pour retrouver le bon ton. Et il se pose la question de comment introduire chaque personnage par la voix off, et il a cette formule. Il refuse de faire des incrustations avec le nom, la fonction, etc. Il déteste ça. Et il se refuse aussi à une voix off qui vienne mordre le début de l'entretien, c'est son expression, et je le cite, « ne pas donner la parole pour en même temps marcher dessus ». Mais ça dit un positionnement éthique que je trouve splendide. Hein. Il se donne la peine d'aller donner cette reprise, cette deuxième prise, à des gens qui socialement sont privés de la parole publique tout le temps. Les ouvriers ne l'ont jamais. Et donc il s'agirait... quand on leur donne la parole, de ne pas aller marcher dessus. Quoi. Bon. Ensuite, parmi les moments où il expose les difficultés et les méandres du travail de montage, 15 heures de rush au départ, donc ramené à ces 3h12, et le plus dur, c'est même assez drôle, les pages où il raconte ça, c'est le passage d'une version de 5 heures à une version de 3 heures. Alors, un des producteurs avait pronostiqué que ça finirait par durer 3h10. Et quand ils ont fini le montage, avant de caler le générique et que ça faisait 3h11, ils se sont offert un coup de fil pour annoncer que ce ne serait pas 3h10. Mais donc, pour parler de ces principes de montage, il raconte deux choses qui m'ont... Enfin, au moins deux choses qui m'ont frappé. D'abord, il en donne l'équation. Partir du film de 68 et de ses auteurs, arriver à Saint-Ouen, avec notamment la CGT, puis rejoindre les Vendaires. Et on voit que le mouvement du film, avec des durées différentes pour chacune de ses parties, mais suit ce chemin-là. Ensuite, il parle de ses problèmes d'enchaînement, Et il dit « Difficile de rebondir après la mélancolie de Liliane Singer », c'est la militante OCI qui est juste avant l'entracte. Et il continue « C'est Poulou qui semble le mieux qualifié, lui aussi d'extrême gauche, mais avec une trajectoire plus solaire jusqu'à la plage. Donc, de part et d'autre de l'entracte, on a les deux gauchistes. Mais parce qu'il y avait une difficulté d'enchaînement après la puissance mélancolique de la première des deux. L'autre truc qui m'amène à la question que tu soulevais, c'est qu'à un moment, il raconte l'avancée dans le travail de montage au moment où il décide dans la salle de montage, dans leur discussion, de rejeter la notion d'interview au profit de celle de personnage. Et je trouve ça passionnant comment un changement de mots dans les discussions va changer quelque chose à la structure du montage. Il ne s'agit plus de monter des interviews, il s'agit de présenter des personnages. Et dès lors, et il le détaille, ils se sentent autorisés, alors qu'ils s'arrachaient les cheveux, à avoir du mal à prendre la décision, sur le personnage de Pierre Guyot, ça leur paraît évident qu'il faut le laisser raconter son emprisonnement parce qu'il a refusé de faire la guerre en Algérie. Parce que si on raconte ce personnage, c'est lui-même qui apporte ce matériau, c'est incontournable, c'est le tournant de sa vie, les 2 ans de tôle pour insoumission en Algérie. Donc là, il n'y a plus de question. Si c'est un personnage, il faut le moment Algérie, alors que ce moment est hors sujet par rapport à 68, etc. Et en fin de montage, quand ils en sont à travailler gratos avec l'espoir qu'un jour la suite du financement arrivera, la production retente une négociation avec Arte qui avait refusé de façon un peu condescendante au départ, en disant qu'on ne voyait pas le sujet du film. Et finalement, un accord se trouve avec Arte, mais à la condition, ils ont visionné une version de montage, ils réclament une version plus courte et plus, je cite Hervé Leroux les citant, plus cinématographique. Il le met en italique et il met sic après. Parce que plus cinématographique, ça veut dire autorisez-vous à mélanger les interviews, etc. C'est-à-dire exactement le contraire. Ils veulent du télévisuel où on va à l'efficacité communicationnelle et où on ne perd pas le fil du sujet 68. Et donc exactement le contraire de ce qu'il a fait, où il nous fait faire connaissance avec des personnages, d'où aussi... Non seulement cette durée, bon, faudra en dire un mot de cette durée, mais ce rythme aussi que je trouve, peut-être que vous ne partagerez pas, que je trouve très doux à traverser pour nous spectateurs, parce qu'on a le temps de faire connaissance avec ces personnages, de comprendre ce qui justifie de passer de l'une ou l'un à l'autre. Et quelque chose m'a frappé aussi pendant la projection sur cette durée. Leroux mentionne dans son bouquin que le film est resté, je crois, 8 mois à l'affiche du Saint-André des Arts. Et en y repensant, je trouve qu'on peut avoir quand même une larme d'émotion pour Diamantis qui dirigeait le Saint-André des Arts. Ça veut dire que pendant 8 mois, il a accepté qu'il y ait 2 horaires occupés par un film au prix d'une seule place. C'est-à-dire que le soutien d'un exploitant... Voilà. Le soutien d'un exploitant à ce film a décidé que son exploitation se déroulera dans le temps long, qu'il faut lui donner le temps pour que le bouche à oreille marche, que les spectateurs en parlent à d'autres spectateurs, etc. On rêverait d'en avoir plus.
On peut être exploitant et militant, oui. Parce que c'est une forme de militantisme. En tout cas, c'est une forme de croyance dans la force du film, y compris sous la forme qui est la sienne. Quoi. C'est très juste quand tu dis, et on comprendrait entre autres, que quand il refuse, alors que d'une certaine manière, on a tellement de réflexes télévisuels que par moments on y pense, on se demande pourquoi ça n'y est pas, qu'il refuse d'incruster les noms, la fonction, c'est-à-dire qu'il refuse de nous aider pour qu'on travaille davantage. Hein, c'est-à-dire que s'il nous aidait, on se reposerait davantage tout court, où on se reposerait davantage sur l'image ou sur ce qui se dit, et on se laisserait bercer et on serait moins attentif. Donc là-dessus, il n'aide pas, ça c'est très juste. Et ce que tu disais sur la guerre d'Algérie, dans le cas de cette personne ou de ce personnage, c'est génial, parce qu'effectivement, l'efficacité narrative voudrait que normalement ça saute. On n'est pas là pour écouter ça. On n'est pas là pour entendre son histoire. Et pourtant, c'est ça qui fait qu'on l'écoute. C'est parce que ça part de là et que pour lui, ce film-là, ces 10 minutes-là, ont moins d'importance que ce qui n'a pas été filmé, mais que lui a envie de raconter. Et c'est ça que le film prend en charge. Et c'est en ça qu'effectivement, il respecte chacun qu'il va rencontrer et qu'il ne les prend pas simplement pour de la chair à parole, quoi. Ça, c'est très, très juste et très beau et effectivement complètement anti-télévisuel, quoi.
Et quelque chose aussi dans le montage tisse un tableau du rapport de force dans les luttes ouvrières. C'est-à-dire que quand même la part belle est donnée aux militantes et militants syndicaux d'abord, politiques aussi, et puis quand même aux agents de maîtrise et à la fin du film à des ouvrières qui n'ont pas du tout envie, pas du tout envie de se révolter, qui estiment qu'on les a forcées à faire grève parce que l'usine était occupée, et qui constituent la majorité de la population des ouvrières et ouvriers de Vendère. Et que, au moment d'évaluer le rapport de force, il nous invite à en prendre la mesure que tous les gens dont on a entendu la parole pendant les premières deux heures et demie de film sont des minoritaires qui ont choisi de passer à la lutte, mais c'est pas du tout le cas général, quoi.
Ça, c'est très, très vrai aussi, parce que le film, d'une certaine manière, pourrait être dans une sorte de reconstitution d'un idéalisme révolutionnaire où on pourrait se bercer d'illusions en imaginant que, comme, comment dire, que toute l'usine ou que toute la France ou que toute la classe ouvrière ou que tous les étudiants sont en quelque sorte à pied d'œuvre pour que la révolution advienne. Et effectivement, il n'y a plus d'un témoignage dans le film qui nous prend à contre-pied et on se dit, mais hein, elle est sérieuse, elle dit vrai quand elle dit que dans l'enfer qui est décrit du travail, c'est ses plus belles années et qu'elle les regrette et qu'elle aimerait les revivre ou qu'elle a pleuré quand les machines sont parties. On a presque du mal à adhérer et pourtant, la sincérité est flagrante, quoi.
Le CFDTiste Morin mentionne à un moment donné, parce que la question lui est adressée, qu'à Vendère en 68, les grévistes sont très minoritaires. Ça vient tôt dans le film, ce propos. Et le film se construit aussi pour nous le faire ressentir dans l'organisation de son montage. Donc, parce que l'entendre, ça ne suffira pas.
Peut-être une chose encore, et après je vous donne la parole et on continue comme ça, mais on a évoqué la dimension obsessionnelle du film, hein, le côté d'Hervé Leroux, c'est-à-dire qu'il organise une sorte d'enquête ou de spirale où tout d'un coup l'inconnu est un fil d'Ariane. À la fois, elle est ce pourquoi il se met en marche, celle qu'il cherche. Et au bout d'un moment, parfois, dans le film, on ne la perd pas vraiment de vue, mais elle n'est plus au centre de la recherche. Et en même temps, elle sert de fil conducteur. Et c'est en ça, sans doute, que Hervé Leroux pouvait dire que, pour lui, la distinction entre fiction et documentaire avait peu de sens. Parce qu'en fait, dans son imaginaire de cinéphile ancien des Cahiers du cinéma, il se voyait comme Dana Andrews dans dans l'aura d'Otto Preminger ou comme Scotty James Stewart dans Vertigo, c'est-à-dire à la poursuite d'une chimère, à la poursuite d'une image, à la poursuite d'une femme, et que cette femme n'allait que faire que se dérober, quoi.
Oui, il y revient plein de fois dans son livre sur le fait que son modèle narratif, c'est le film noir avec l'enquêteur, le détective. Mais il y a d'autres éléments qui, à mon avis, méritent d'être soulignés sur son regard de metteur en scène. Quand il raconte son enquête pour trouver ses personnages, la première question qu'il se pose une fois qu'il est sûr qu'il pourra tourner avec ses personnages, c'est quel décor ? C'est-à-dire de penser tout de suite en termes cinématographiques, de placer ce personnage dans quel décor et le placer comment dans le cadre. C'est-à-dire que le positionnement dans le cadre de Poulou et des protagonistes CGT du film de 68, etc., est pensé pour reproduire leur direction de regard à l'identique du film de 68. leur placement dans le cadre et la direction de regard qu'ils ont.
Que mentalement, on les replace nous-mêmes dans le film.
Pour qu'on les replace dans l'espace du cadre de la surface de l'écran. Quoi. Donc la mise en scène n'est pas ostentatoire, mais sans cesse pensée jusque dans ce genre de détails-là.
Est-ce que vous avez une question, une intervention ?
Oui, c'est vrai qu'en voyant le film, je pensais au paysage qui inclut chaque personnage. Et j'étais frappée devant le personnage de Guillon. J'étais obsédée par ces roses. Enfin, il y a un côté incroyable, mais qui décrit tellement bien une partie de la classe ouvrière dont on n'a pas souvent, qu'on ne connaît pas toujours nécessairement bien. Mais j'ai trouvé que cette peu d'attention à, les pavillons, les décors de vie de chacun des protagonistes nous en dit certainement beaucoup plus que des centaines de films peut-être sur la classe ouvrière. Il y a une chose aussi que je voulais dire, et je suis restée un petit peu sur ma fin, à la toute fin du film, en disant, mais il s'arrête, il pourrait très bien retrouver le fils de cette femme, hein, et il s'arrête. Et je me pose encore la question.
Je ne sais pas ce que tu en penses, mais je pense qu'il le fait exprès.
Oui,
c'est-à-dire qu'il refuse, d'aller jusqu'à la montrer. Parce que moi, je pense qu'il l'a retrouvée.
Ah oui.
Je pense qu'il l'a retrouvée.
Lui prétend le contraire dans son livre.
Qu'est-ce qu'il dit alors ?
Alors, je peux vous divulgâcher la dernière phrase du livre, parce que le fait que le film ait été pas mal diffusé avec à chaque fois des débats, parfois des rencontres avec des anciens de Vonder dans différentes villes, fait que même après le film fini, pendant l'exploitation du film, renaît pour lui l'espoir d'éventuellement retrouver cette Jocelyne. Et les deux dernières phrases du livre, c'est qu'après avoir épuisé de nouvelles pistes infructueuses, il écrit « J'ai définitivement décidé d'arrêter les recherches et de classer le dossier. Enfin, c'est ce que j'écris ce 18 janvier 1998 à
22h15. » Un obsessionnel comme lui ne s'arrête pas même après 22h15.
Mais je veux revenir juste au côté miraculeux de ce film qui a été tourné par les élèves de l'IDEC, qui, moi, j'ai à peu près tout vu du cinéma 68.
Donc le film de 68,
oui,
reprise du travail aux usines
Vonder. Qui est complètement miraculeux. C'est miraculeux d'avoir ça.
Mais eux-mêmes le disent. Ils disent on a eu une chance inouïe.
Ils sont restés 20 minutes sur place.
Ils sont restés 20 minutes.
En séquence de 9 minutes.
C'est-à-dire, la scène était déjà presque installée pour eux. Ils ont filmé le temps d'un magasin de caméras. Et quand ils ont eu fini, ils sont repartis. Ouais. Donc c'est comme un prélèvement inouï, effectivement. Comme tu dis, qui résume les épisodes précédents, mais c'est un coup de chance comme il s'en produit quelquefois. Ah oui, ça vraiment.
C'est une intervention très personnelle parce que j'habitais en 68 à Saint-Ouen, à 400 rue des Rosiers, et j'étais une amie de Poulou, donc j'ai très bien connu. Et en ce moment, avec des amis de manière très amateuriste, on essaie de faire un documentaire.
Pardon, vous faites
on essaie de faire de manière très amateuriste un documentaire sur nos années lycées, notamment en mai 68, puisqu'on avait, moi j'avais 14 ans et demi en mai 68, et donc je suis très émue d'avoir, je n'avais jamais vu ce documentaire, et donc voilà, c'était simplement une intervention purement personnelle.
Et Poulou, comment il va ?
Il est mort, Poulou.
Oh non.
Il y a 2-3 ans. Et donc, j'ai bien connu la cabane à Oléron, etc., etc. Donc, c'était effectivement très émouvant de le revoir.
En fait, moi, j'avais déjà vu les images d'archives du film de 68. Et bah, je suis tout à fait d'accord avec vous, avec cette idée que c'est assez génial de voir toutes les positions de l'époque représentées de manière quasi dramaturgique. Et en même temps, j'étais un peu énervée de voir que cette jeune femme avait que sa voix était un petit peu étouffée en fait par tous ces hommes qui se trouvent autour d'elle, et j'espérais en fait que le film Reprise vienne en quelque sorte corriger ça et qu'on arrive à entendre davantage les 70% de ces ouvrières de l'usine Et en fait, en termes de personnes interviewées, c'est vraiment l'inverse. Il y a 30% de femmes à la limite et au moins 70% d'hommes qui parlent. Et on voit bien qu'avec les couples, l'homme qui prend la parole et qui étouffe de nouveau ses voix... en fait, c'est ce terme de reprise ou cette idée des toutes premières minutes du film quand il dit moi je voulais lui redonner en fait un autre plan ou une autre. Enfin, en fait, ça me gêne un peu, je crois. Je me dis que autant je trouve le documentaire génial pour plein de raisons, mais j'ai pas l'impression qu'il arrive à redonner la voix, de manière peut-être au moins aux femmes ou aux ouvrières de l'usine, quoi.
Je comprends et partage votre impulsion de départ, mais pas la conclusion que vous en tirez. Je vais essayer d'argumenter un tout petit peu pourquoi. D'abord parce que je pense que là où il faudrait nous garder d'anachronisme, c'est que l'état du féminisme et de la pensée féministe en 1997 n'est pas le même que celui d'aujourd'hui, que la question de la parité n'est pas posé dans les mêmes termes qu'aujourd'hui. Donc, je ne pense pas qu'il ait même eu l'idée de se poser la question du pourcentage, et moi, je n'ai pas fait les statistiques sur 30%, 70%, je suis prêt à vous faire confiance sur votre estimation, mais je pense qu'il y a aussi des données, c'est que déjà, une femme qui prend la parole et qui est filmée prenant la parole en 68, alors là, dans le cinéma militant, et je parle sous le contrôle d'Anne-Marie Lannemann, c'est bien en dessous des 30%, donc déjà il a mis un coefficient multiplicateur s'il n'est qu'à 30%, et puis il faut les trouver, il faut qu'elles acceptent de parler, les ouvriers et ouvrières n'acceptent pas toujours facilement d'être filmés ou de parler par un effet d'intimidation culturelle, donc je pense que déjà il renverse beaucoup la vapeur par rapport aux tendances dominantes, puis il donne la parole à des ouvriers et ouvrières, déjà, ce que les médias dominants ne font pas, quasiment pas du tout, quoi. Surtout hors période de grève, quasiment pas du tout. Donc je pense qu'il faut resituer aussi que son projet, c'est, je crois que c'était le sous-titre sur l'édition DVD, Un voyage au cœur de la classe ouvrière. C'est-à-dire que le motif de classe, et oser dire classe ouvrière en 97, c'est déjà ramé à contre-courant très sérieusement. Le motif de classe est clairement le motif principal. La question de genre ou de sexe est au second plan dans ses préoccupations et elle n'en est pas absente. Alors je voudrais souligner un autre point là sur l'œuvre d'Hervé Leroux. À laquelle la Cinémathèque avait rendu hommage quelques mois après son décès bien trop précoce en 2017, et il faudra recommencer pour qu'on puisse revoir les films, notamment le premier d'entre eux, Grand Bonheur, qui est introuvable. Donc un film sur deux de Hervé Leroux est un film de fiction. Grand Bonheur, son premier film en 93, est un film de fiction. Ensuite, il y a Reprise, qui est sans doute le film qui l'aura occupé le plus longtemps, puisqu'il commence à y travailler en 91. Il s'interrompt pour faire Grand Bonheur, il s'y remet, et le film Reprise sort en 97. En 99, il y a un autre documentaire court qui dure 30 minutes, qui s'appelle Sortie d'usine, et qui est presque une excroissance de Reprise. C'est un film sur des ouvriers de Renault. Issus d'usines fermées, celle de Renault-Saint-Ouen et celle de Renault-Vilvorde, pour tout un groupe de personnages. Donc en Belgique. Et son dernier long métrage de fiction s'appelle On appelle ça le printemps. Et je récapitule cette filmo là pour indiquer que bon, il y a un climat dans ces films de fiction très jubilatoire, ludique, solaire, un peu rivettien. Et avec, en commun avec Rivette aussi, le fait que c'est les personnages féminins qui conduisent la fiction, comme chez Rivette. C'est-à-dire que c'est vraiment pas le même genre de... Enfin, c'est pas le regard et la construction des fictions qui règnent dans la majorité du cinéma français réalisé par des hommes. C'est un cinéaste de ce point de vue-là, qui a vraiment ce point commun avec Rivette, sans se prétendre ou s'auto-qualifier de féministe, c'est pas à lui de le faire, mais qui en tout cas se sent, je crois, très concerné par l'égalité, y compris l'égalité entre sexes. Et par ailleurs, je pense que sa pudeur à se situer politiquement, que ce soit dans le champ du féminisme ou sur les politiques ouvrières ou tout autre champ, quand il raconte les débats très nombreux qu'il a accompagnés à la sortie de Reprise, il dit qu'il y a toujours un stade du débat où il se met en retrait et il ne veut plus rien dire. C'est quand le débat se met à porter sur quelles sont les tâches politiques du moment. Il estime que lui, il a fait un film et il n'a surtout pas usé de la voix privilégiée qu'il a en étant à la tribune, au micro, etc., comme nous maintenant, pour prescrire de quel côté seraient les tâches politiques.
Tu avais envie de dire encore autre chose, de conclure?
Je regarde si je vais avoir des regrets épouvantables.
Voilà, si est-ce que tu n'auras pas des regrets?
Juste des éléments factuels. J'ai mentionné tout à l'heure que Arte avait fini par accepter de financer à la condition qu'il existe une version qu'ils appelaient plus cinématographique, en fait, formatée télé. Hervé Leroux a refusé de s'en mêler et a laissé son producteur finir et signer cette version. Donc il y a un film de Richard Coppens qui s'appelle « Parole ouvrière, parole de Vonder » qui a été diffusé sur Arte à partir des mêmes rushs. Je ne sais plus le format, 52 minutes ou un peu plus. Une autre indication, toujours pour essayer de souligner la singularité d'Hervé Leroux comme metteur en scène. Dans son court-métrage « Sortie d'usine », qui est visible entre autres dans les bonus du DVD de « On appelle ça le printemps », il interviewe donc plusieurs ouvriers des usines Renault-Vilvoorde. Or, il choisit les mêmes personnages que Yann Bucquois, qui avait fait un film qui s'appelle « Fermeture de l'usine Renault à Vilvoorde ». Et je trouve que les deux films méritent absolument d'être regardés en vis-à-vis. Les deux existent en DVD parce que je trouve les deux films formidables. C'est pas du tout pour jouer l'un contre l'autre dans les grands jeux de cinéphiles qu'on est capable de faire parfois, mais plus justement pour voir la singularité de chaque démarche cinématographique se confrontant aux mêmes matériaux, pardon de le dire comme ça, mais aux mêmes personnages. Quoi.
Souvenir que je garde du film de Hervé Leroux, Sortie d'usine, donc qui date de 99-2000, c'est qu'effectivement il filme des ouvriers Renault de Saint-Ouen, alors que Renault-Saint-Ouen a fermé au début des années 90, et il va à Vilvoorde filmer donc des ouvriers en Belgique d'une usine Renault qui était à l'époque, je sais pas aujourd'hui, enfin qui était à l'époque le fleuron de, sinon c'était la chaîne 2.0, et il montrait dans ce film, où les ouvriers eux-mêmes expliquaient à Hervé Leroux comment, alors à des années-lumière, si je puis dire, de l'usine Vonder, la chaîne était de nouveau, enfin la chaîne était réorganisée, et c'est-à-dire que en fait ils étaient parvenus à une scientificité telle que chaque geste, là ils disent 18 000 piles par jour, 18 000 gestes, mais que le poste de travail de l'ouvrier à Renault-Vilvoorde était constitué de telle manière qu'il avait été calculé au centième de seconde près chaque geste que pouvait accomplir un ouvrier à son poste, et que l'ergonomie de son poste de travail était telle qu'il allait pouvoir accomplir 4 ou 5 gestes essentiels, et qu'ils avaient donc repensé complètement la chaîne qui faisait que l'ouvrier à ce moment-là n'était plus qu'un robot dans
l'un
une chaîne.
L'un d'entre eux le dit.
Ah voilà, toi, tu te souviens mieux que moi. Voilà, mais littéralement, c'est le souvenir qu'on gardait, c'est que dans cette amélioration a priori des conditions de travail, il en ressortait une encore plus grande déshumanisation, puisque là, littéralement, c'était comme si on renouait avec les temps modernes, mais ceux de Chaplin, quoi. Littéralement, le geste était démultiplié, pensé au centième de seconde près, et accompli dans un univers un poste de travail à la fois ergonomique et fermé.
Juste peut-être pour finir, sauf s'il y a une autre intervention, mais j'ai noté au fil de la projection, en profitant du fait que la revision permet d'être plus attentif à des trucs, quelques chiffres qui passent pendant le film. Saint-Ouen, 20 000 emplois ouvriers détruits en 10 ans. Je trouve ça abyssal comme chiffre. Tu mentionnais le nombre de piles par jour. Ce n'est pas 18 000, c'est 38 000. et j'ai fait le petit calcul de qu'est-ce que ça veut dire pour chaque ouvrière et chaque ouvrier. Ça veut dire 80 piles par minute. Donc c'est plus qu'une par seconde.
Sans compter les piles jetées, mais les piles jetées, oui, sont fabriquées.
Mais ça veut dire qu'il y a un fanatisme de la cadence qui préfère qu'on jette une portion de la production, mais qu'on impose cette cadence plutôt que de laisser les gens avoir le temps de respirer ou réfléchir ou je sais pas quoi. Mais, oui, je crois que c'est la proportion qui est annoncée, un quart qui est jeté.
La rapidité, comme tu dis, c'est à la fois un effet de productivité
et de sidération.
Et de sidération, c'est-à-dire que c'est un effet, comme ça, on occupe littéralement le corps et la pensée de celui qui produit.
Alors, un autre truc qui m'a frappé, c'est que le film, Reprise du travail aux usines Vonder, le permanent du PC dit 200 syndiqués à ce jour à Vonder, 200 syndiqués CGT. Et dans son témoignage, Marie-Thérèse, la sœur Marie-Thérèse, qui s'est syndiquée à la CGT, dit qu'elle est arrivée en septembre et qu'ils étaient trois CGT. Je pense qu'il faut prendre la mesure de ce que ça veut dire sur ce qu'a été l'été 68, et pas que chez Vonder. Pareil à l'ORTF, etc., comme répression des militants syndicaux. Ça veut dire qu'on a viré environ 200 militants syndicaux pendant l'été 68 chez Vonder.
À un moment, il est dit dans les pratiques de répression syndicale qu'il y a des ateliers entiers qui sont vraiment, quelqu'un dit, je crois peut-être c'est dans le dernier témoignage, des ateliers tombent pour en fait faire sortir
les maoïstes.
Les maoïstes ou les militants, les syndiqués, quoi.
Alors, le dernier truc que j'ai noté, je voulais y donner la note en bas de page, c'est qu'à un moment où on essaye de reconstituer les 30 revendications de Vonder en 68, l'une d'entre elles, c'est l'abrogation des ordonnances de 1967 sur la Sécu. Donc, pour rappeler de quoi il était question, puisque ça a quelque chose à voir avec notre actualité, jusqu'à ces ordonnances de 67, la proportion de représentants des travailleurs à travers leurs syndicats était de 2/3 dans la gestion des caisses sécu et notamment des caisses de retraite. Et l'ordonnance de 67 fait passer la représentation à parité 50-50 entre patronat et salariés. Et c'est une revendication qui a été beaucoup reprise en 68 de demander l'abrogation de ces ordonnances de 67 qui n'ont toujours pas été abrogées.
Un grand merci à David Farou
et à vous de l'invitation.
Et merci à vous.
C'était les podcasts de la Cinémathèque française.